Bonsoir. Et donc, je vais essayer de proposer en un temps très bref un exposé qui donne quelques repères, quelques clés essentielles pour comprendre la foi musulmane dans ce cas-là le plus originel et qui fonctionne jusqu'à nos jours. Hein, donc, c'est tous les points de doctrine dont je vais parler se sont nés à l'origine, donc il y a plus de 14 siècles dans l'histoire du monde musulman, et continuent jusqu'à nos jours. Et c'est pour ça qu'on voit que l'actualité est pleine d'une histoire tellement profonde que pas l'animosité entre chiites et sunnites date effectivement de la toute première génération, reste tellement, tellement vivace, et pourquoi elle est finalement assez irréconciliable. Donc on va étudier ces constantes, mais surtout, je vous en prie, n'hésitez pas à interrompre, poser des questions, parce que bon, vous savez déjà des choses, ou au contraire, vous souhaiteriez des éclaircissements, des choses qui ne sont pas claires, donc surtout n'hésitez pas. Alors, je vais donc d'abord retracer rapidement quelques événements historiques en introduction, mais je pense que vous les connaissez pour l'essentiel. Puis parler donc en un premier point rapidement sur ce sur quoi les musulmans sont d'accord, c'est-à-dire ce qui fait qu'un musulman est musulman et qu'ils se retrouvent tous ensemble au sein d'une même communauté, pour passer alors en un second temps au point de clivage, ce sur quoi ils ne sont pas d'accord, qu'est-ce qui a fait que la communauté musulmane est divisée en courants qui sont vraiment très difficilement conciliables. Et enfin, en troisième partie, je m'attarderai plus sur l'islam sunnite, parce que l'islam sunnite est quand même majoritaire, que l'islam sunnite est très présent en France en particulier, et que, bon, c'est quand même dans le sunnisme que se présentent les éventuels problèmes qui se posent à la société française. Alors, premièrement, les repères historiques, ils sont importants pour se souvenir que il se trouve que historiquement, l'islam est né dans le cadre d'un État. Ça aurait peut-être pu être autre chose, mais en tout cas, l'islam est né dans le cadre d'une structure politique qui fait que, actuellement encore, une bonne majorité de musulmans n'arrivent pas à penser l'exercice de leur culte et de leur législation en dehors d'une structure politique. Pour résumer, donc, en 610, à La Mecque, dans une petite ville du centre centre ouest de l'Arabie, Mohammed reçoit des visions. Il reçoit la visite d'un ange, dit la tradition, encore qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense que vous avez dû en parler avec Madame Chabbi, et qui lui demande d'être prophète et de prêcher. De 610 à 622, Mohammed prêche auprès de ses contrigules à La Mecque de façon pacifique. Les Mécois sont pour la plupart polythéistes, mais il y a aussi des chrétiens, des manichéens. Mais en tout cas, il réussit à convertir un petit groupe de Mécois, mais pas beaucoup. On a le nombre de 80 personnes. Et la majorité lui sont hostiles. Du coup, il quitte La Mecque et en 622 émigre à Médine, donc une oasis qui se situe à 350 km au nord de La Mecque. Et à Médine, il est accueilli par des tribus locales qui le nomment arbitre, chef. Et petit à petit, Mohammed finit par consolider son pouvoir. Il assoit son pouvoir, mobilise des troupes, engage des guerres contre les Mécois et contre d'autres tribus. Il y avait à Médine trois tribus juives qui sont progressivement mises au pas, expulsées, et pour l'une d'elles massacrées. Donc l'État à Médine de 622 à 632 date de la mort de Mohammed et le cadre dans lequel l'islam est né. Donc pendant toute cette période-là, donc Mohammed construit un État qui s'étend sur une bonne partie de la péninsule arabique. Et donc, quand on lui pose des questions, il est à la fois prophète et législateur. Donc, on lui vient lui poser des questions sur les héritages, sur sur les divorces. Il est l'arbitre, disons, de tout un petit État, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer. Médine, ça devait faire tout casser, 30 000 habitants, hein, tout casser, au grand maximum. Et donc, il a exercé ce pouvoir de cette façon-là, et bien évidemment, dans les générations qui ont suivi, on a eu tendance à considérer tout ce qu'il avait ordonné dans un cadre qui pour nous est politique, de le teinter, disons, d'une dimension sacrée. En 632, Mohammed meurt de façon inattendue. Et d'abord, ça a surpris, il était à Médine, ça a surpris ses contemporains, il a une mauvaise fièvre. Mais surtout, Mohammed n'avait prévu aucune disposition concernant sa succession. Donc il y a eu un vide. On ne s'explique pas encore très bien le pourquoi de cette absence de succession. Il semble qu'il y avait l'idée que la fin des temps était proche et que Mohammed prêchait véritablement la venue de la fin des temps et la prédication ultime dans l'histoire du monde, et qu'il n'avait pas tellement à l'idée ni de regrouper le Coran dans un volume, ni d'assurer une succession, puisque de toute façon, le jugement divin allait venir. Quoi qu'il en soit, l'islam a réussi à être fondé par le génie politique de certains de ses compagnons, donc, qui, au moment de ce décès-là, ont occupé le pouvoir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du livre de Hella Wardi, une historienne tunisienne qui a écrit sur ces événements-là deux livres très intéressants sur comment s'est passée cette succession, vraiment, quand on regarde au jour le jour ce qui a pu se passer. Bref, que s'agisse d'un coup d'État, comme diraient les chiites, ou d'une assomption du pouvoir, comme disent les sunnites, le fait est que le premier calife, Abou Bakr, qui a régné de 632 à 634, peu de temps, mais il a consolidé quand même l'État. Tout l'État fondé par Mohammed allait s'effondrer, les tribus ne voulaient plus payer, les tribus US ne voulaient plus payer le tribut UT, et il a réussi à regrouper l'État, consolider l'État, et au moment de sa mort en 634, il passe la main au véritable fondateur de l'Empire musulman qui s'appelait Omar, qui règne de 634 à 644 et qui lance les grandes conquêtes. C'est-à-dire que cet État musulman qui était très instable, en fait, par ses conquêtes qui apportent un butin immense, se pérennise en quelque sorte. Et les musulmans qui au départ étaient assez peu nombreux se trouvent à la tête d'un vaste empire qui comprend la Syrie, l'Égypte, la Mésopotamie. En 644, Omar meurt assassiné, mais son successeur, Osman, continue à agrandir l'empire. Osman, par contre, crée des mécontentements, et il est important d'avoir ça en tête. Osman est issu de la bourgeoisie marchande de la Mecque, et cette bourgeoisie marchande s'est convertie à l'islam de façon un peu opportuniste, mais a réussi à s'arroger pas mal de postes dans les armées, pas mal de postes dans l'administration, au détriment, disons, de certaines tribus, notamment la tribu de Médine qui avait accueilli Mohammed au départ, et qui s'estime lésée. Et ces tribus qui s'estiment lésées se regroupent autour de Ali, qui, comme vous avez dû le voir, est à la fois le gendre du prophète et son cousin germain. Donc il était cousin germain de Mohammed, et en même temps, Mohammed a donné sa fille, qui était son enfant unique, à Ali. Donc Ali est l'ancêtre de tous les descendants du prophète. Et donc, il y a un parti de mécontents qui, pendant toutes ces années-là, s'unifie, se cristallise autour de la personne de Ali. En 656, pour des raisons dues au népotisme de Hoffmann, une mutinerie éclate, les soldats mutins assiègent la maison de Hoffmann, donc le troisième calife, qui est assassiné. Ali est nommé et acclamé calife, comme quatrième calife, par la foule à Médine, mais il ne fait pas l'unanimité autour de lui. Une guerre civile éclate en 656. Donc ces événements en 656 marquent le début de ce qu'on a pu appeler la grande discorde, la première grande guerre civile entre musulmans, qui oppose d'une part la bourgeoisie de la Mecque autour de la famille des Omeyyades. Les Omeyyades proclament un califat à Damas et les Omeyyades s'opposent alors à toutes les tribus mécontentes regroupées autour de Ali, Ali, suite à une série de maladresses politiques qu'il est inutile de détailler ici, finalement est affaibli et meurt assassiné en 661. Mais ceci dit, les partisans de Ali, bien que vaincus militairement, ne s'estimeront pas, comment dire, satisfaits de cet état de fait, et continueront à se révolter depuis cette date-là jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que depuis cette année, enfin de ces années 656, 660, 661, la mort de Ali, jusqu'à nos jours, il y aura des révoltes de la minorité chiite contre la majorité qui va devenir le sunnisme. On ne peut pas compter le nombre de révoltes qui ont eu lieu et le nombre de répressions dans lesquelles les chiites ont été en général vaincus et en général persécutés, pas toujours. Donc le chiisme va devenir le principal courant oppositionnel jusqu'à nos jours, sauf en Iran, comme vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces événements historiques? Donc, le point principal, qui est souvent bien difficile à comprendre, donc, c'est que les musulmans n'ont aucune institution, aucune église, aucune institution religieuse qui les représente. À partir des origines et à travers tout le Moyen Âge, tous les différents califats, tous les différents sultanats, le pouvoir suprême, y compris en matière de religion, appartient au chef politique. Mais le chef politique, pour prendre des décisions qui sont d'ordre religieux, interroge des intellectuels, des religieux, mais de façon empirique. Donc il n'existe pas de clergé, le clergé en islam. Ce qui existe, ce sont ce qu'on appelle les oulémas, des savants en sciences religieuses. Que veut dire savant en sciences religieuses? C'est que ce sont des juristes. Comme on va le voir plus en détail après, fondamentalement, ce qui est demandé aux musulmans, ce n'est pas de croire dans un credo compliqué, c'est d'appliquer une loi. Et donc, quelle loi faut-il appliquer? On demande aux juristes. Donc quand on parle éventuellement de clergé en islam, quand on parle des religieux en islam, on parle de juristes, de gens qui sont capables de dire comment se comporter en telle et telle circonstance. Et ces juristes sont éventuellement théologiens. Alors, les califes se sont succédés, les sultans se sont succédés, souvent ils n'avaient aucune, une très faible formation religieuse. Par contre, les oulémas, eux, ont continué leur carrière, se sont transmis leur savoir. Et de façon paradoxale, les oulémas constituent une classe, parfois presque une caste, stable au fond de savants qui passaient à travers les générations, qui ont construit un système juridique, qui ont construit un système de pensée de façon, je trouve, remarquable, parce qu'il n'y avait pas de concile, il n'y a jamais eu de concile, il n'y a jamais eu de synode ou quoi que ce soit, mais l'islam médiéval a finalement constitué un système de pensée. Pas homogène, on va le voir, mais enfin quand même assez cohérent. Donc pratiquement, comment se passent les choses dans un État entièrement musulman? L'État musulman nomme des juristes qui sont des juges, enfin nomme des juges, nomme un personnel dans les tribunaux. Ils sont rémunérés par l'État et donc, y compris même dans des républiques, on nomme un mufti de la République dont le rôle est de c'est-à-dire de contresigner les lois. Non, pratiquement c'est ce qu'il fait, mais disons de lire les lois votées par le Parlement pour affirmer s'ils sont oui ou non en accord avec la charia. Comme bien souvent les régimes dans les pays du Proche-Orient sont assez musclés, le mufti n'a pas intérêt quand même à être trop en opposition. Voilà. Alors, maintenant, pour dire les choses brièvement, sur quoi les musulmans sont-ils tous d'accord? Sachant qu'il n'y a pas de contour précis en islam. C'est-à-dire que souvent on parle de l'orthodoxie en islam, on parle du sunnisme comme orthodoxie en islam, de l'islam. C'est une expression qui est erronée, parce qu'il n'y a pas de système qui permette d'excommunier. Il n'y a pas. Les sunnites ne sont pas plus orthodoxes que les chiites. C'est eux, ils se jugent eux-mêmes, disons, plus purs musulmans. Mais ce qui se passe, c'est qu'il existe dans la religion musulmane un noyau de croyances sur lequel tout le monde est d'accord. Par exemple, tout le monde est d'accord sur le fait que il n'y a qu'un seul Dieu, que Mohammed est son prophète, que le Coran est la parole de Dieu. Tout le monde est d'accord sur la résurrection après la mort. Et celui qui proclame cela, il est musulman. Et personne ne peut l'exclure de la communauté. Mais à partir de là, on peut croire à beaucoup de choses. À partir de ce noyau, il y a beaucoup de variations, comme on va le voir. Mais prenons l'exemple le plus important, l'exemple des chiites. Les chiites adhèrent à ce noyau, bien sûr, il n'y a qu'un seul Dieu et le Coran, ils ont le même Coran. Mais ils affirment qu'il existe certaines personnes qui ont une autorité particulière qui leur permet d'interpréter plus que les autres et mieux que les autres les données de la révélation et qu'ils appellent les imams, avec un I majuscule, peut-on dire. Les sunnites affirment que les chiites sont des innovateurs, c'est-à-dire qu'ils ont les sunnites. Que les chiites ont ajouté à la foi des originels, ils ont ajouté quelque chose qui n'y était pas. On s'appelle ça bid'a, une innovation. On peut dire une hérésie, mais c'est une innovation, ils ont rajouté. Mais ceci dit, les chiites sont musulmans. C'est-à-dire que les chiites peuvent aller à la Mecque faire leur pèlerinage. Ils sont considérés comme des musulmans de plein droit. Et de même, les chiites considèrent les sunnites aussi comme des musulmans de plein droit, même s'ils considèrent qu'ils ont une foi lacunaire, puisqu'ils ne croient pas dans les imams. Alors, par contre, il peut y avoir des déclarations concernant tel ou tel courant, telle ou telle personne, qui, par exemple, nierait que Mohammed soit le dernier des prophètes. Par exemple, la religion bahaï, il y a une sorte d'excommunication. Qui dirait que la résurrection n'est pas corporelle, qui affirmerait que, je sais pas, un point de. Qui contesterait l'existence de monde surnaturel, des anges et des djinns, des choses comme celle-là. Dire que l'enfer n'existe pas, tout ça, c'est absolument condamnable, et celui qui le dit n'est plus considéré comme musulman. Il est considéré comme apostat. Mais ça, c'est de l'accord de tous. Donc il y a un accord dans l'ensemble de plus de milliards de musulmans sur cette conception-là. Jusqu'ici, ça va?
Oui.
Alors, les points les plus axiaux, disons, de ce qui fait l'unité des musulmans, c'est d'abord le fait coranique. Tout le monde, tous les musulmans sont entièrement d'accord pour dire que le Coran est la parole de Dieu. Donc le Coran, comme vous l'avez vu, c'est l'ensemble des fragments, des passages qui auraient été révélés à Mohammed de 610, date des premières révélations, jusqu'à 632, date de la mort de Mohammed. Ça constitue un livre de quelques 6300 versets, écrit en arabe littéraire, dans un style particulier, dans un ordre particulier qui n'est ni un ordre chronologique, ni un ordre thématique. Le Coran, comme vous le savez, est constitué de l'appel à conversion, de récits des prophètes, et la part du juridique y est extrêmement réduite. Hein, contrairement à ce qu'on dit souvent, on parle du droit coranique, ce que le Coran dit sur le droit se résume à une centaine et quelques, disons, de versets qui parlent des héritages, des mariages, des divorces, et tout. Mais pas de quoi fonder véritablement un système juridique. Le droit musulman s'est déployé sur un autre sol. Donc, tout le monde, absolument tout le monde est d'accord sur le fait que le Coran est la parole de Dieu. Maintenant, évidemment, va surgir la question de l'interprétation. Bien évidemment, un texte n'existe pas qu'en tant que tel. Et il va falloir savoir est-ce que tel récit coranique, est-ce que c'est un fait historique ou est-ce que c'est une parabole, un effet de rhétorique? Est-ce que telle prescription vestimentaire ou alimentaire, est-ce que c'est un ordre ou c'est un conseil? Quelle portée faut-il donner à telle ou telle injonction? Est-ce que ça concerne tous les musulmans, une partie des musulmans? Mettons les injonctions là, au jihad, est-ce que ça concerne tout le monde, à tout instant, ou bien est-ce que c'est conditionné par telle ou telle condition historique? Bon, là-dessus, à partir de là, bien sûr, les gens se divisent. Mais disons qu'il y a quand même le noyau qui fait l'unité, à savoir le Coran comme parole de Dieu. Le second point qui fait unité de tous les musulmans, il est aussi fondamental, c'est l'importance du rituel. C'est important pour nous, pour nous. C'est important pour toutes les personnes qui vivent dans un climat occidental chrétien, de voir que pour les musulmans, la théologie n'est pas très importante. L'Église catholique ou protestante est gérée, si je puis dire, par des théologiens. Dans les séminaires, on enseigne de la théologie. En islam, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas pour la bonne raison que on considère que Dieu est complètement inconnaissable. On ne peut pas spéculer sur Dieu. La seule réflexion qu'on puisse exercer sur Dieu, c'est d'essayer de comprendre le Coran. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus important de connaître la grammaire arabe que de savoir spéculer de façon rationnelle. Et le but, donc, ce n'est pas de connaître Dieu, le but, c'est de lui obéir. Dieu a créé les hommes, explique le Coran, pour qu'ils l'adorent, pour qu'ils le servent. Et donc, dans un cadre comme celui-là, le personnage central, comme je le disais à l'instant, c'est le juriste. C'est le juriste qui peut dire aux croyants, vous devez vous comporter comme cela, vous devez manger comme cela, vous habiller comme cela, la morale s'articule de telle ou telle façon, etc. Donc, le deuxième point sur lequel tous les musulmans sont d'accord de quelque manière, c'est le rituel. Donc, tout le monde prie de la même façon. Là, le ramadan qui est en cours maintenant est pratiqué par tout le monde à peu près de la même façon. Et tout le monde est d'accord, au fond, sur l'importance de l'orthopraxie, sur l'idée qu'il faut d'abord et avant tout obéir à Dieu, avec une méfiance assez généralisée à l'égard des spéculations théologiques. La théologie existe, hein, elle existe, mais c'est une discipline quand même assez secondaire. Il y a une discipline qui s'attache à la question dans quelle mesure l'homme est-il prédestiné, a-t-il un libre arbitre, dans quelle mesure peut-on expliquer que Dieu est une essence unique et des attributs divers, enfin, que ça existe, mais ce n'est pas vu comme essentiel. Alors, maintenant, deuxième partie, ce sur quoi les musulmans ne sont pas d'accord. Là, il y a des clivages, il y a même des ravins qui séparent des courants qui, je le répète, se sont tracés dès le début de l'histoire de l'islam et se prolongent jusqu'à nos jours. Première question, qui a le droit d'interpréter le Coran? Qui? Sachant que l'islam est dirigé par un pouvoir politique, qui a le droit de parler? Qui a l'autorité? Et deuxièmement, comment doit-on procéder pour comprendre le texte sacré? Quelle est la démarche à suivre pour interpréter le Coran? Et pour interpréter non seulement le Coran, mais pour interpréter après les paroles du prophète, ce qu'on appelle les hadiths. Et là, évidemment, il y a une grande division. Qui a le droit d'interpréter le Coran? À cette question-là, le premier mouvement à avoir répondu de façon claire et catégorique, c'est le chiisme. Donc, dès le début, les chiites ont dit que Mohammed, de son vivant, avait désigné comme son successeur son cousin et gendre Ali, et que non seulement Ali était désigné comme son successeur politique, comme devant être son calife, mais qu'il avait confié à Ali tout un savoir secret, ésotérique, et que Ali était comme protégé, enfin, par les anges, et que Ali prolongeait la révélation du prophète. Ali n'était pas prophète, et les imams après lui ne sont pas considérés comme des prophètes, mais comme les seuls humains ayant une véritable autorité pour dire la vérité sur le Coran. Donc, pour être véritablement musulman, pour un chiite, il faut suivre l'imam. Donc, Ali est mort, après lui, il y a d'autres imams d'autres personnes considérées comme imams, avec un i majuscule, par les chiites. Alors la situation chez les imams, chez les chiites majoritaires, comme ceux qui sont en Iran, qu'on appelle duodécimains, c'est que pour eux, ils suivent le 12e imam, mais qui est un imam caché, qui est un imam occulté, qui a disparu autour des années 940 et qui vit dans l'occultation jusqu'à la fin du monde. Donc c'est qui peut se manifester éventuellement, mais enfin, c'est dans des conditions évidemment tout à fait occultes. Quoi qu'il en soit, donc,
Pourquoi du haut des cimes?
ils sont 12. Donc pour eux, il y a eu Ali. Après Ali, il y a eu 11 autres
Ah d'accord,
imams.
ok, oui.
Voilà. Et ce dernier imam, qu'on appelle le Mahdi, vit dans une dimension cachée. Et Dieu a prolongé sa vie dans une seule journée qui va durer jusqu'à la fin des temps. Pour les chiites, la foi n'est complète que et seulement que si on accepte l'autorité des imams. Sans les imams, on est dans une ignorance définitive. C'est pour ça d'ailleurs que les sunnites, comme vous le savez, ont deux professions de foi. J'atteste qu'il n'y a que Dieu est le seul Dieu et que Mohammed est son prophète. Deuxièmement, que Mohammed est son prophète. Et les chiites ajoutent une troisième profession de foi et j'atteste que Ali est l'ami de Dieu. Sans l'adhésion aux imams, donc la foi musulmane est mutilée. Et en tant que les imams sont eux-mêmes des êtres, pour ainsi dire, divins, théophaniques, c'est eux seuls qui peuvent dire la vérité du Coran et qu'au fond, le Coran parle des imams, le Coran parle de la perfection de l'homme et la perfection de l'homme, ce sont les imams. Il y a quelque chose qui ressemble un peu à une christologie gnostique dans le schisme. Alors, maintenant, évidemment, comme vous le savez, Ali a été combattu, il a été combattu par Abou Bakr et par Omar, il a été exclu du pouvoir, et donc pour les chiites, Abou Bakr et Omar sont des imposteurs, sont des adversaires, sont des partisans de Satan. Donc ça va loin, c'est pas simplement un débat qui a dû prendre le pouvoir après la mort de Mohammed. Vraiment, pour les chiites, les chefs sunnites incarnent les forces du mal, les armées de Satan. Progressivement, le chiisme est resté minoritaire, mais il se trouve qu'au XVIe siècle, il est devenu la religion officielle de l'Iran, et là, il s'est structuré, et comme vous le savez, il s'est même structuré dans une sorte de clergé. On peut effectivement parler d'un clergé, à savoir des savants qui sont organisés entre eux, et il est considéré que le consensus de ces savants, qu'on appelle ayatollah, traduit la parole de l'imam caché. Alors, ça, c'est la position chiite qui a été violemment, oui, qui a été repoussée catégoriquement par la majorité des musulmans, cette majorité qu'on va appeler bientôt sunnite. Politiquement, cette majorité sunnite refuse l'idée chiite que Ali était désigné comme successeur du prophète. Pour eux, Abou Bakr, Omar, Othman sont des califes tout à fait légitimes. Et d'un point de vue religieux, il refuse l'idée que Mohammed avait nommé le seul Ali à la tête de la communauté comme autorité religieuse suprême. Pour les sunnites, la vérité sur le Coran, sur l'interprétation du Coran, sur l'élaboration de la morale et du dogme revient à la totalité de la communauté. Il n'y a personne qui soit plus parfait qu'un autre. Sauf, à l'exception d'eux, une seule personne qui elle-même est véritablement impeccable et infaillible, et qui est le prophète Mohammed. Et donc on voit cette situation sunnite, c'est caractéristique dans tous les pays musulmans, mais de l'immigration, en France aussi, il n'y a pas de tête, il n'y a absolument personne qui puisse se prévaloir d'une position hiérarchique quelconque. Les musulmans ne sont supérieurs les uns aux autres que par le savoir. On peut simplement dire qu'il y a des savants, des gens plus savants, plus compétents que d'autres. Et on voit donc ce côté, enfin, qui est à la fois égalitaire, mais en même temps pose une question très pratique, très difficile. Si les questions qui se posent au monde moderne, qui va y répondre? Et bien, ce qui y répond, c'est un bouillonnement d'avis différents. Deuxième question, qui elle aussi va alors susciter énormément d'avis divergents et qui le fait jusqu'à nos jours, c'est comment interpréter le Coran. Tout le monde est d'accord pour dire que le Coran est la parole de Dieu, tout le monde est là, aucun problème là-dessus, mais comment interpréter le Coran si l'on refuse l'autorité charismatique des imams, bien entendu. Eh bien, il y a eu dès le début, enfin, c'est-à-dire au deuxième, troisième siècle de l'ère musulmane, de l'ère islamique, il y a eu un courant rationaliste qui disait en substance, Dieu, miséricordieux, a envoyé aux hommes un texte pour les guider, pour leur assurer le salut éternel. Ce texte est clair, parce que Dieu ne va pas envoyer une révélation obscure et floue. D'autre part, Dieu, dans sa miséricorde, a doté les êtres humains, tous les êtres humains, destinés au salut, d'un outil pour comprendre ce texte. Cet outil, c'est la raison. Par conséquent, il y a un réquisite, le Coran doit être clair et interprétable par l'outil qu'est la raison. Et donc vous voyez là, ce débat, faut-il.
Ce courant rationaliste, excusez-moi de vous
Oui.
couper, monsieur, il était plutôt chez les sunnites ou chez les chiites?
Dans le cadre du sunnisme, hein,
Dans le cas
dans
du
le cadre du
sunnisme.
sunnisme. Mais il y a aussi eu ce courant rationaliste au sein du chiisme, effectivement. Effectivement. Mais c'est toujours la question de la raison, quelle raison, et ça, comme vous le savez, ça continue vraiment jusqu'à nos jours. Et c'est une question fondamentale. Comment lire le Coran? Alors, souvent, vous entendez dire chez les musulmans traditionnels, il faut lire le Coran littéralement. Mais lire le Coran littéralement, ça n'a pas de sens, sans vouloir faire de jeu de mots. Que signifie un verset coranique qui dit, après avoir créé le monde, Dieu s'est assis sur son trône? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que Dieu a un corps pour s'asseoir? Alors, les rationalistes, qu'on appelait le mu'tazilite, disaient non, ça n'a aucun sens. Dieu n'a pas de corps, c'est une métaphore. Donc, s'il est dit Dieu a créé Adam avec ses deux mains, d'argile avec ses deux mains, c'est une métaphore pour la puissance créatrice de Dieu. S'il est dit les mécréants encourent la colère de Dieu, que veut dire la colère? Il est bien évidemment Dieu est omniscient, de toute éternité il connaît tout. Comment peut-il céder à un sentiment aussi faible, disons, que l'énervement que connaissent les humains? Que veut dire la colère de Dieu? Donc, les mu'tazilites diront c'est pour expliquer l'orientation de la volonté divine. Donc, ils ont proposé une interprétation du Coran qui était fondée sur l'idée que le Coran propose un langage imagé par métaphore. Mais évidemment, là aussi, la majorité sunnite, parce que c'est les sunnites qui ont gardé la majorité, était extrêmement réticent face à ces affirmations des mu'tazilites. Car si on commence par dire raisonnablement, tel passage est une métaphore, tel passage est une métaphore, la question du libre arbitre, il est évident que les hommes sont libres. Sinon, donc rien ne serait juste. C'est au fond, ça équivaut à donner à la raison humaine le pouvoir d'expliquer la parole divine. Donc la raison humaine rend comment dire, se place dans une position supérieure, prévaut au fond sur la parole divine et d'une certaine manière la rend inutile. Parce que pourquoi Dieu aurait-il révélé tout un message de Mohammed si c'est pour dire il est mal de voler, de tuer ou de... Donc, il y a eu un refus, disons, de ce rôle de la raison massif, qui a beaucoup tourné autour de la question, d'ailleurs, de la liberté et de la prédestination. Le courant rationaliste insistait sur la liberté, sur le libre arbitre. Les sunnites insistent beaucoup sur la prédestination. Les débats ont l'air très abstraits, mais en fait, le débat entre rationaliste et sunnite exprime deux visions radicalement différentes de la personne humaine et de la morale. Les sunnites ont une vision profondément pessimiste de l'être humain. Ils considèrent que l'être humain est gouverné non pas par sa raison, mais par ses passions. Il est d'abord passionnel et évidemment il invoque après sa raison pour justifier ses passions. Mais la raison humaine est erratique, la raison humaine est faible, et la raison humaine est radicalement incapable de savoir ce qu'il faut à l'homme pour acquérir son salut éternel. Donc à partir de là, il considère que toutes ces spéculations des Mu'tazilites comme dangereuses et profondément, profondément condamnables. Tout s'est joué dans la première moitié de notre 9e siècle. Il y a eu un calife, Ma'moun, qui était favorable aux rationalistes, qui a instauré leur courant comme doctrine officielle. Ça a duré une trentaine d'années, et puis après, le courant sunnite était trop fort, et le califat de Bagdad a mis le sunnisme comme doctrine officielle et de façon définitive dans l'Empire. Alors, on peut bien sûr imaginer ce qu'on appelle des uchronies maintenant, à savoir qu'est-ce qui se serait passé si, vous savez, qu'est-ce qui serait passé si Napoléon n'avait pas fait la campagne de Russie, qu'est-ce qui se serait passé si Alexandre n'était pas parti en Asie, enfin bref. Eh bien là, on peut se dire qu'est-ce qui serait passé si Ma'moun avait eu gain de cause et si au Moyen-Âge, la doctrine rationaliste s'était répandue dans l'ensemble du monde musulman. Est-ce que la Renaissance, une Renaissance de type de l'Italie au 15e, 16e siècle, aurait pu se passer dans le monde musulman à cette époque? Bon, on peut toujours imaginer. Quoi qu'il en soit, donc, au total, le rationalisme n'a touché qu'une classe d'intellectuels, mais s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Et donc, jusqu'à nos jours, il y a ce qu'on appelle les nouveaux penseurs de l'islam qui disent, qui réclament le droit de la raison, le rôle de la raison dans l'interprétation du Coran, dans l'exégèse coranique. Ça va jusque-là, il n'y a pas de flou. Alors, maintenant, que dit fondamentalement le sunnisme? Donc, le sunnisme affirme que la raison humaine doit se plier devant le texte du Coran. Bien sûr, il y a des passages du Coran qui semblent un peu étranges ou incompréhensibles quand il est dit que. Les questions de l'œil de Dieu, des mains de Dieu, du trône de Dieu, quand il est question des sentiments, de la colère, de la joie de Dieu, il est question du sourire de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, face à ces questions-là, le lecteur musulman doit se soumettre, il doit reconnaître que sa raison n'est pas capable de comprendre une partie du message divin. Mais en tout état de cause, c'est au Coran d'éclairer le raisonnement humain et non pas à la raison humaine de porter un jugement sur le Coran. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'enseignement sunnite n'aime pas trop la théologie spéculative, comme je le disais au début. On ne spécule pas sur le Coran. Mais alors, bon, tout cela est bel et bien, mais si, il fallait quand même proposer un système de pensée et surtout proposer un système de gouverner. L'empire omeyyade et puis abbasside avait besoin de règles, il fallait besoin de tout un système juridique. Or, pour les raisons historiques qui fait que l'islam se développe dans le cadre d'un État et que les lois de cet État sont des lois religieuses en même temps que sociales, en quelque sorte, il fallait quand même donc savoir comment faire que le système juridique de l'Empire corresponde à la volonté divine. Voilà, corresponde à la volonté divine. Et alors, c'est ici qu'est né le dogme qui constitue le sunnisme, à savoir que la source après le Coran, la seule source véritablement sûre, c'est la parole du prophète Mohammed. C'est lui seul, en quelque sorte, qui a droit à être considéré comme infaillible et donc qu'il faut invoquer si on veut vraiment comprendre le message divin du Coran. Donc on a commencé à considérer que Mohammed était investi d'une science universelle, qu'il connaissait la science du passé, du futur. On a développé dans toute une série de témoignages, de miracles qu'il a accomplis, qui dépassent de loin tous les miracles que l'Évangile rapporte sur Jésus. C'est-à-dire que Mohammed, qui auparavant, dans les toutes premières générations, était considéré comme un homme tout à fait, bien sûr, remarquable, respectable, tout ce qu'on voudra, mais un homme dont on connaissait les faiblesses humaines, qu'il était énervé, il était déprimé dans telle ou telle situation, que dans telle situation, il a désiré la femme de son fils adoptif, etc. Tout ça a été gommé pour faire de Mohammed vraiment un homme tellement, tellement parfait qu'on peut dire au fond qu'il est presque une théophanie, un homme parfait qui reflète parfaitement ce que Dieu veut auprès des hommes. Donc, l'attitude qui a prévalu, c'est de dire, maintenant, il s'agit de compléter ce que dit le Coran par ce que le prophète a dit ou aurait dit. Donc, il fallait suivre la coutume du prophète, la coutume en arabe sunna, d'où l'appellation, les partisans de la sunna du prophète, qui a donné le terme sunnite. Avec l'idée, il faut éviter au maximum d'établir des règles, et surtout des règles de droit, selon son propre jugement personnel, et toujours essayer de voir ce que, dans ces cas-là, Mohammed a enseigné. Mais évidemment, nous sommes là 2 siècles, 2 siècles et demi après la mort du prophète. Et d'où s'est développée à cette époque-là une recherche sur ce que le prophète a dit ou aurait dit, à savoir sur les hadiths. Donc on appelle hadith, on a orthographie Hadith, une parole du prophète ou le récit d'un comportement du prophète. Donc plusieurs savants, d'un grand nombre de savants, se sont mis à parcourir le monde musulman pour essayer de recueillir la mémoire de ce que le prophète aurait dit, des descendants de ceux qui auraient transmis ces paroles. Cette sunna, donc cette collection des paroles du prophète, c'est véritablement, comment dire, fait corps avec le Coran. C'est le sunnisme, ce n'est pas la religion qui s'attache au Coran, mais qui s'attache au Coran plus le hadith, plus la sunna. Le Coran, je le disais, a un contenu assez général, et le hadith indique enfin, une bonne partie de ce qu'il est nécessaire de savoir dans le détail des droits. Et c'est ce qui est problématique dans la réforme, mettons, la statue de la femme. De toutes sortes de points tout à fait précis ne viennent pas forcément du Coran, mais très souvent plutôt du hadith. Mais du hadith émis par un prophète infaillible. Donc toute la question est de savoir jusqu'où faut-il suivre ce prophète infaillible. En tout cas, jusqu'à maintenant, on peut dire que le bloc Coran et hadith a été réaffirmé de façon catégorique. Récemment, il y a depuis à peine une trentaine d'années, a surgi un courant qu'on appelle les coranistes. Les coranistes sont des intellectuels musulmans qui disent le hadith, c'est des paroles qui de notre cher prophète, mais enfin qui ont été données dans un contexte très différent. Il y a beaucoup de faux hadiths qui se sont mêlés aux vrais. Bref, comme notre contexte est différent, nous considérons que le hadith n'est plus utile. Et donc, nous attachons à l'enseignement du Coran seul, donc table rase de tout ce que le hadith pourrait dire. Eh bien, l'université Al-Azhar, qui a un peu le statut qui émet des avis assez écoutés dans le monde sunnite, a déclaré que les coranistes n'étaient plus des musulmans. Donc là, on a un cas d'excommunication. Affirmer qu'on peut se passer du hadith exclut de l'islam. Et sans exagérer, on peut dire que tout le débat autour du réformisme musulman à l'heure actuelle, c'est pour bonne part savoir est-ce qu'on maintient des hadiths, qu'est-ce qu'on fait avec l'enseignement du prophète? Qu'est-ce qu'on fait avec l'enseignement du prophète qui est parfois bien gênant parce que le prophète était un homme de son époque et avec souvent la rudesse des gens de son époque. Si mettons, le prophète a dit les femmes sont lacunaires en intelligence et en religion, bon, ça a un poids au niveau du droit, puisque effectivement les femmes n'ont droit que. Enfin, il faut deux femmes pour équivaloir les témoignages d'un homme. Bon, donc il y a quand même un poids, disons, ça peut aller assez loin.
C'était de quelle université, pardon, le...
Al-Azhar, Azhar. Et le poids de ce hadith est réel, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont tellement imprégnées par ce hadith qu'ils disent, ben, si notre prophète a dit cela, c'est que ça doit être vrai. Hein,
Excusez-moi, le hadith, il se concrétise comment? C'est un texte ou c'est simplement
oui,
des
je vais
paroles?
en parler.
Ah, pardon.
Je vais en parler tout à fait. Donc, il y a eu une recherche de hadith à partir du 9e siècle, donc. Le plus célèbre d'entre eux, pour vous donner une mesure de ce qui a pu se passer, le plus célèbre d'entre eux, Boukhari, qui a composé le recueil le plus célèbre, le plus reconnu, qui a un prestige énorme dans le monde musulman, Boukhari, qui est mort en 870, raconte dans l'introduction de son recueil qu'il a regroupé à peu près 100 000 hadiths, mais que la plupart lui semblaient des forgeries et des paroles peu sûres pour diverses critiques, pour diverses raisons et critères, et il n'en a retenu que 6 000. Donc c'est dire que de l'aveu même de ces savants, les hadiths mensongers étaient en quantité énorme, énorme. Alors, le danger de forgerie était tout à fait évident. Il y a eu, comme le hadith avait un certain prestige, il y avait des califes assez tyranniques qui faisaient circuler des hadiths disant obéir au calife, c'est obéir à Dieu, par exemple. Donc, on peut voir par certaines paroles comment on peut infléchir, donner plus de poids à tel ou tel courant politique ou religieux. Ces pratiques de falsification menaçaient dans ses fondements même l'islam sunnite. Donc, on a élaboré une critériologie du hadith qui est fondée sur la chaîne de transmission. C'est-à-dire que c'est des gens comme Boukhari interrogeaient telle ou telle personne qui disait, le prophète a dit, alors il a dit, bon, mais le prophète a dit, de qui l'a dit? Qui te l'a transmis et qui l'a transmis à celui qui t'a transmis, etc. Et donc, il y a une chaîne de transmission qui, en principe, dans le cas idéal, devrait relier la personne contemporaine de Boukhari au prophète. Alors, bien évidemment, lui, il a gardé 6 000 hadiths qui ont des chaînes ininterrompues, qui ont des chaînes concordantes, où on peut vérifier que les personnes étaient bel et bien contemporaines. Mais il y a eu toute une science qui s'est développée, une science colossale, pour savoir d'abord qui étaient les différents transmetteurs, est-ce qu'ils ont vécu vraiment au même endroit, à la même époque, est-ce qu'ils n'étaient pas trop chiites, est-ce qu'ils n'étaient pas trop mu'tazilites, est-ce qu'ils n'ont pas fait des choses interdites, bu d'alcool, est-ce qu'ils n'étaient pas sourds, que sais-je. Donc il y a toute une. Il y a des biographies qui ont été écrites. Et donc, on a abouti à une classification très complexe de hadiths, mais pour simplifier, il y a les hadiths sains, enfin S-A-I-N-S, dont on considère que les chaînes sont correctes, des hadiths qui sont simplement bons, et c'est une grande partie des hadiths dans le droit juridique, les hadiths juridiques, à savoir la chaîne de transmission n'est pas totale, mais enfin, quand même, elle a des chances d'être sérieuse, ou bien ce hadith a été transmis vers plusieurs chaînes. Différentes, même si elles ne sont pas parfaites. Et enfin, des hadiths faibles, dont la chaîne de transmission n'est pas bonne, mais dont on a gardé la mémoire, notamment des hadiths faibles, mais qui donnent des bons sentiments, qui sont très tournés vers la piété. il y a un hadith qui dit « Toutes les bonnes paroles, c'est moi qui les édite », ce qu'aurait dit le prophète. Alors, bien sûr, la recherche contemporaine n'a pas entériné purement et simplement l'effort critique de ces savants. Et, depuis un siècle et demi, en quelque sorte, les savants orientalistes ont dit qu'il n'était pas plus difficile de forger un hadith, une fois qu'on connaissait le système de chaîne de transmission, de forger la chaîne de transmission avec le hadith. Donc il n'y a pas vraiment de garantie que le hadith soit sain. Mais bon, quoi qu'il en soit, donc on peut dire qu'il y a eu un processus de canonisation des hadiths qui fait au cours de l'histoire, à partir de notre 10e siècle, que Boukhari, beaucoup d'autres recueils ont été considérés comme canoniques. Et donc que leur autorité était fondée sur leur chaîne de transmission. Sur leur chaîne de transmission et non pas sur leur contenu. Voilà, donc quoi, le système juridique s'est développé avec comme idée que le premier critère indubitable était le Coran, le second critère c'était le hadith qui vient le compléter. Si maintenant, évidemment, dans le hadith comme dans le Coran, tous les cas juridiques ne sont pas présents, il y a évidemment beaucoup de cas, surtout à notre époque, qui ne sont pas prévus dans le Coran ou le hadith, dans ce cas, on a recours au raisonnement par analogie. On essaie de trouver dans le Coran ou dans le hadith des situations analogues. Mettons, est-ce qu'on a le droit de fumer telle ou telle substance légèrement apaisante? Alors, bon, on dit, mais c'est un peu comme du vin, et comme le vin a été condamné, dans ce cas, la dite substance est également condamnée, par exemple. C'est un raisonnement par analogie. Et enfin, quatrième critère, qui à mon avis est essentiel, c'est le consensus de la communauté. C'est-à-dire que si la communauté musulmane dans son ensemble, représentée par ses savants, entérine une idée, c'est que celle-ci doit être vraie. Il y a un hadith où le prophète aurait dit « Ma communauté ne tombera jamais d'accord sur une erreur ». Donc il y a une sorte d'infaillibilité accordée à la totalité de la communauté sunnite, ce qui fait à la fois une très grande souplesse, une très grande plasticité dans l'accueil des idées nouvelles et en même temps pratiquement une impossibilité de faire admettre, de faire un consensus nouveau pour telle ou telle question. Alors, à l'époque médiévale, les choses étaient encore relativement simples parce que les savants étaient finalement assez peu nombreux. La grande masse des croyants n'était même pas alphabétisée. Donc les savants, il y en avait quelques centaines dans telle et telle région, et c'était facile pour eux de se réunir, notamment à l'occasion du pèlerinage à la Mecque, pour débattre des idées. Les idées ont beaucoup, beaucoup, beaucoup circulé au Moyen-Âge. Mais à l'époque moderne, où il y a des millions de jeunes musulmans qui ont fait des études universitaires, à notre époque où en plus il y a Internet, il y a donc des millions de gens qui prennent la parole, des millions de musulmans qui prennent la parole, qui disent, voilà, mon avis, c'est ceci. Alors, c'est à la fois très intéressant, le débat théologique, juridique sur Internet, c'est un monde fantastique, mais en même temps, c'est très difficile d'aboutir à un consensus. À mon avis, ce n'est pas impossible, et d'ailleurs, ce n'est pas souhaitable. Bon. Voilà, alors, bon, on va... Alors, juste une rapide parenthèse pour parler quand même de la mystique. Là, je vous ai parlé de l'islam juridique, mais il existe aussi tout un courant mystique qui est extrêmement étendu. Nous, dans le climat chrétien, quand on pense à mystique, on pense à des religieux dans des monastères, dans des ermitages. En islam sunnite, les confréries mystiques regroupent des millions de personnes. Hein. Ce sont des laïcs, puisqu'il n'y a pas de monachisme du tout. Ce sont des laïcs, des gens engagés dans la vie, mariés, qui ont une profession, et qui se regroupent autour de l'enseignement initiatique de certains maîtres. Et ils ont des réunions un peu discrètes, mais connues quand même, un peu comme des loges maçonniques. Et ils ont, en plus de la prière de tous les musulmans, ils ont des pratiques initiatiques particulières, ce qui différencie au fond ce courant mystique des autres musulmans ordinaires, c'est que pour le musulman ordinaire, au fond, ce qu'on a à faire, c'est appliquer la loi. C'est sur terre, c'est cela. Après, on aura, si Dieu le veut, bien sûr, la récompense d'aller dans le paradis, et au paradis, de rencontrer Dieu, de voir Dieu. Pour les mystiques, qu'on appelle les soufis souvent, pour les soufis, on peut déjà rencontrer Dieu dès ici-bas. L'expérience du divin est possible dans cette vie-ci. Alors, je vous passe l'histoire du soufisme, mais disons à partir du 12e, 13e siècle, les mystiques se sont regroupés en confréries où les maîtres soufis, ceux à qui on accordait une science de l'union à Dieu, la proximité divine, ont accueilli des milliers et des milliers de gens. Ils recevaient beaucoup de dons. Ils ont créé des couvents, en quelque sorte. Ils ont géré des écoles, des hôpitaux, des hospices. Le soufisme est devenu une des principales virtualités de la vie religieuse en islam. Donc il ne faut pas l'oublier. Alors maintenant, à partir du 19e siècle, ces courants mystiques ont été affaiblis par la modernité, par l'éducation de masse. Ils ont été combattus par les courants libéraux, modernistes, ils ont été combattus par les régimes communistes, ils ont été aussi et surtout combattus par tout le courant wahhabite, tout le courant, disons, fondamentaliste. Or, précisément, ce que les wahhabites, dans leur haine profonde du soufisme, pointent, là encore, c'est une autre vision de l'homme et une autre vision du pouvoir. Pourquoi ? Parce que pour les soufis, pour les mystiques qui obéissent à leur maître, l'homme est capable d'avoir un rapport direct avec le divin. Donc les maîtres soufis ont comme un accès direct à la source mohammedienne elle-même. Pour les wahhabites, pour les séoudiens, il y a l'idée que Dieu est inaccessible. Ce qui est la seule chose que nous puissions faire, donc, c'est de respecter sa loi. Et donc, le pouvoir appartient à nous, les juristes. Donc, il y a une lutte pour le pouvoir politique, ce qui est évident, par exemple, en Afrique subsaharienne. Il y a des grandes confréries, je sais pas, comme les Mourides au Sénégal. Le chef spirituel des Mourides a un prestige religieux énorme, et les jeunes wahhabites essayent de se battre pour dire « Non, non, ce prestige ne vaut rien. » Donc, il y a une question de lutte pour l'autorité religieuse en général et le pouvoir politique en particulier, qui est une lutte sur Internet très très vivace et dans la lutte parfois militaire même, de plus en plus aussi. Voilà, alors pour conclure et laisser quand même du temps à la discussion, que penser des courants contemporain en islam? Alors, le courant le plus conservateur, donc le wahhabisme précisément, affirme retourner aux sources. Ils disent, nous sommes en crise, il nous faut retourner aux sources de l'islam, à l'époque du prophète Mohammed, et à élaborer une cité qui corresponde exactement à ce modèle-là. Paradoxalement, ces conservateurs adoptent une idée complètement nouvelle, parce que ça n'avait jamais été proposé auparavant. Auparavant, la société était musulmane et les gens ne cherchaient pas spécialement à imiter la cité de Mohammed à Médine. Mais donc c'est face à la modernité, disons, que le monde fondamentalisme réagit. Il n'existerait pas, disons, s'il n'y avait pas cette idée, toute la modernité face à elle. Ensuite, cet islam majoritaire, quand même, je le disais, est fondé sur le droit. Or, c'est là où la modernité fait mal, parce que, au fond, qu'est-ce que la modernité vient choquer dans l'islam? C'est pas Internet, c'est pas la télévision, c'est pas les TGV, c'est pas du tout l'aspect technique. C'est l'affirmation de la souveraineté du sujet. L'idée que chaque individu, quel que soit son sexe, quel que soit son statut social, a le droit de décider lui-même des opinions qu'il professe et qu'il possède tous les droits, c'est cela qui heurte, disons, la conception traditionnelle dans l'islam, où précisément tous les hommes ne sont pas égaux. Parce que précisément, un musulman n'a pas les mêmes droits qu'un non-musulman, un homme n'a pas les mêmes droits qu'une femme, etc. Donc, et c'est là, donc, où se passe où le clivage qui existait depuis les premiers siècles se manifeste. Pour les courants qu'on appelle néo-mortazilites, ça ne pose pas de problème. Ce sont tous ces nouveaux penseurs de l'islam qui disent, bien sûr, tous les hommes sont égaux, ça va de soi, et nous lisons le Coran comme un livre de spiritualité qui nous inspire, comme le moyen de parvenir à une vie dans l'au-delà, une vie heureuse, mais sans vouloir faire de la politique avec ce Coran. Mais il faut quand même reconnaître que, sans parler des fondamentalistes militants, il y a l'idée majoritaire qu'il vaudrait mieux que les valeurs proposées par la charia soient appliquées dans la société. Ça ferait un certain frein dans l'évolution des mentalités. Voilà, moi je vais m'arrêter ici pour laisser la place aux questions.
Merci beaucoup, Pierre.
Bravo.